Alexandre Dumas, La Dame de Montsoreau, tome 3, chapitre 1er, Roland, ce que venait annoncer monsieur de Montsoreau, le roi Henri III apprend la fuite de son frère. Grâce au renfort qui lui était arrivé, monsieur le duc d'Anjou put se livrer à des reconnaissances sans fin autour de la place. Accompagné de ses amis, arrivés d'une façon si opportune, il marchait dans un équipage de guerre dont les bourgeois d'Angers se montraient on ne peut plus orgueilleux, bien que la comparaison de ces gentilshommes bien montés, bien équipés, avec les harnais déchirés et les armures rouillées de la milice urbaine, ne fût pas précisément à l'avantage de cette dernière. On explora d'abord les remparts, puis les jardins attenant aux remparts, puis la campagne attenante aux jardins, puis enfin les châteaux épars dans cette campagne. Et ce n'était point sans un sentiment d'arrogance très marqué que le duc narguait en passant, soit près d'eux, soit au milieu d'eux, les bois qui lui avaient fait si grand peur, ou plutôt dont Bussy lui avait fait si grand peur. Les gentilshommes angevins arrivaient avec de l'argent. Ils trouvaient à la cour du duc d'Anjou une liberté qu'ils étaient loin de rencontrer à la cour de Henri III. Ils ne pouvaient donc manquer de faire joyeuse vie dans une ville toute disposée, comme doit l'être une capitale quelconque, à piller la bourse de ses hôtes. 3 jours ne s'étaient point encore écoulés qu'Entraguet, Ribérac et Livarot avaient lié des relations avec les nobles angevins les plus épris des modes et des façons parisiennes. Il va sans dire que ces dignes seigneurs étaient mariés et avaient de jeunes et jolies femmes. Aussi n'était-ce pas pour son plaisir particulier, comme pourraient le croire ceux qui connaissaient l'égoïsme du duc d'Anjou, qu'il faisait de si belles cavalcades dans la ville. Non, ses promenades tournaient au plaisir des gentilshommes parisiens qui étaient venus le rejoindre, des seigneurs angevins et surtout des dames angevines. Dieu d'abord devait s'en réjouir, puisque la cause de la ligue était la cause de Dieu, et puis le roi devait incontestablement en enrager. Enfin, les dames en étaient heureuses. Ainsi, la grande trinité de l'époque était représentée, Dieu, le roi et les dames. La joie fut à son comble le jour où l'on vit arriver, en superbe ordonnance, 22 chevaux de main, 30 chevaux de trait, enfin 40 mulets, qui, avec les litières, les chariots et les fourgons, formaient les équipages de monsieur le duc d'Anjou. Tout cela venait comme par enchantement de Tours pour la modique somme de 50 000 écus que monsieur le duc d'Anjou avait consacrée à cet usage. Il faut dire que ces chevaux étaient scellés, mais que les selles étaient dues aux selliers. Il faut dire que les coffres avaient de magnifiques serrures fermant à clé, mais que les coffres étaient vides. Il faut dire que ce dernier article était tout à la louange du prince, puisque le prince aurait pu les remplir par des exactions. Mais ce n'était pas dans la nature du prince de prendre, il aimait mieux soustraire. Néanmoins, l'entrée de ce cortège produisit un magnifique effet dans Angers. Les chevaux entrèrent dans les écuries, les chariots furent rangés sous les remises, les coffres furent portés par les familiers les plus intimes du prince. Il fallait des mains bien sûres pour qu'on osât leur confier les sommes qu'ils ne contenaient pas. Enfin, on ferma les portes du palais au nez d'une foule empressée qui fut convaincue, grâce à cette mesure de prévoyance, que le prince venait de faire entrer des millions dans la ville, tandis qu'il ne s'agissait au contraire que de faire sortir de la ville une somme à peu près pareille sur laquelle comptaient les coffres vides. La réputation d'opulence de monsieur le duc d'Anjou fut solidement établie à partir de ce jour-là, et toute la province demeura convaincue, d'après le spectacle qui avait passé sous ses yeux, qu'il était assez riche pour guerroyer contre l'Europe entière, si besoin était. Cette confiance devait aider les bourgeois à prendre en patience les nouvelles tailles que le duc, aidé des conseils de ses amis, était dans l'intention de lever sur les Angevins. D'ailleurs, les Angevins allaient presque au-devant des désirs du duc d'Anjou. On ne regrette jamais l'argent que l'on prête ou que l'on donne aux riches. Le roi de Navarre, avec sa renommée de misère, n'aurait pas obtenu le quart du succès qu'obtenait le duc d'Anjou avec sa renommée d'opulence. Mais revenons au duc. Le digne prince vivait en patriarche, regorgeant de tous les biens de la terre, et, chacun le sait, l'Anjou est une bonne terre. Les routes étaient couvertes de cavaliers accourant vers Angers pour faire au prince leur soumission ou leurs offres de service. De son côté, monsieur le duc d'Anjou poussait ses reconnaissances, aboutissant toujours à la recherche de quelques trésors. Bussy était arrivé à ce qu'aucune de ses reconnaissances n'eût été poussée jusqu'au château qu'habitait Diane. C'est que Bussy se réservait ce trésor-là pour lui seul, pillant à sa manière ce petit coin de la province qui, après s'être défendu de façon convenable, s'était enfin livré à discrétion. Or, tandis que M. d'Anjou reconnaissait et que M. Bussy pillait, M. de Montsoreau, monté sur son cheval de chasse, arrivait aux portes d'Angers. Il pouvait être 4 heures du soir. Pour arriver à 4 heures, M. de Montsoreau avait fait 18 lieues dans sa journée. Aussi, ses éperons étaient rouges et son cheval, blanc d'écume, était à moitié mort. Le temps était passé de faire aux portes de la ville des difficultés à ceux qui arrivaient. On était si fiers, si dédaigneux maintenant à Angers, qu'on eût laissé passer sans conteste un bataillon de Suisses. Ces Suisses eussent-ils été commandés par le brave Grillon lui-même. Monsieur de Montsoreau, qui n'était pas Grillon, entra tout droit en disant « Au palais de Monseigneur le duc d'Anjou !» Il n'écouta point la réponse des gardes qui hurlaient une réponse derrière lui. Son cheval ne semblait tenir sur ses jambes que par un miracle d'équilibre dû à la vitesse avec laquelle il marchait. Il allait, le pauvre animal, sans avoir plus aucune conscience de sa vie, et il y avait à parier qu'il tomberait quand il s'arrêterait. Il s'arrêta au palais. Monsieur de Montsoreau était un excellent écuyer, le cheval était de race. Le cheval et le cavalier restèrent debout. « Monsieur le duc !» cria le grand veneur. « Monseigneur est allé faire une reconnaissance, » répondit la sentinelle. « Où cela ?» demanda monsieur de Montsoreau. « Par là, » dit le factionnaire, en étendant la main vers un des 4 points cardinaux. « Diable !» fit Montsoreau. « Ce que j'avais à dire au duc est cependant bien pressé. Comment faire ?»« Maître Tapor, votre chifal à l'aigurie, » répliqua la sentinelle qui était un reître d'Alsace, « car si vous ne l'appuyez pas contre un mur, il dombera. » « Le conseil est bon, quoique donné en mauvais français, » dit Montsoreau. « Où sont les écuries, mon brave homme ?»« Là, pas !» En ce moment, un homme s'approcha du gentilhomme et déclina ses qualités. C'était le majordome. Monsieur de Montsoreau répondit à son tour par l'énumération de ses noms, prénoms et qualités. Le majordome salua respectueusement. Le nom du grand veneur était, dès longtemps, connu dans la province. « Monsieur, dit-il, veuillez entrer et prendre quelque repos. Il y a 10 minutes à peine que Monseigneur est sorti. Son Altesse ne rentrera pas avant 8 heures du soir. »«
8 heures du soir ?» reprit Montsoreau en rongeant sa moustache. « Ce serait perdre trop de temps. Je suis porteur d'une grande nouvelle qui ne peut être sue trop tôt par son Altesse. N'avez-vous pas un cheval et un guide à me donner ?»«
Un cheval ?» « Il y en a 10, monsieur, » dit le majordome. Quant à un guide, c'est différent, car Monseigneur n'a pas dit où il allait. Et vous en saurez, en interrogeant, autant que qui que ce soit sous ce rapport. D'ailleurs, je ne voudrais pas dégarnir le château, c'est une des grandes recommandations de son Altesse.
« Ah !» fit le grand veneur, « on n'est donc pas en sûreté ici ?»«
Oh, monsieur, on est toujours en sûreté au milieu d'hommes tels que messieurs de Bussy, de Livarot, de Ribérac, d'Entraguet, sans compter notre invincible prince, Monseigneur le duc d'Anjou, mais vous comprenez ?»«
Oui, je comprends que lorsqu'ils n'y sont pas, il y a moins de sûreté.
Hein ?»« C'est cela même, Monseigneur. »« Alors je prendrai un cheval frais dans l'écurie et je tâcherai de rejoindre son Altesse en m'informant. »
« Il y a tout à parier, monsieur, que de cette façon, vous rejoindrez Monseigneur. »«
Il n'est point parti au galop ?»«
Au pas, monsieur, au pas. »«
Très bien, c'est chose conclue. Montrez-moi le cheval que je puis prendre. »«
Entrez dans l'écurie, monsieur, et choisissez vous-même. Tous sont à Monseigneur. »«
Très bien. »
Montsoreau entra.
10 ou 12 chevaux, des plus beaux ou des plus frais, prenaient un ample repas dans les crèches bourrées du grain et du fourrage les plus savoureux de l'Anjou.
Voilà, dit le majordome, choisissez.
Montsoreau promena sur la rangée de quadrupèdes un regard de connaisseur.
Je prends ce cheval, Bébrun, dit-il, faites-le-moi seller.
Roland.
Il s'appelle Roland?
Oui, c'est le cheval de prédilection de son Altesse. Il le monte tous les jours. Il lui a été donné par Monsieur de Bussy, et vous ne le trouveriez certes pas à l'écurie si son Altesse n'essayait pas de nouveaux chevaux qui lui sont arrivés de Tours.
Allons, il paraît que je n'ai pas le coup d'œil mauvais.
Un palefrenier s'approcha. C'est les Roland, dit le majordome. Quant au cheval du comte, il était entré de lui-même dans l'écurie et s'était étendu sur la litière sans attendre même qu'on lui ôtât ses harnais. Roland fut sellé en quelques secondes. Monsieur de Montsoreau se mit légèrement en selle et s'informa une seconde fois de quel côté la cavalcade s'était dirigée.
Elle est sortie par cette porte et elle a suivi cette rue, dit le majordome,
en indiquant au grand veneur le même point que lui avait déjà indiqué la sentinelle.
« Ma foi, dit Montsoreau, en lâchant la bride et en voyant que de lui-même le cheval prenait ce chemin, on dirait, ma parole, que Roland suit la piste.
« Oh, n'en soyez pas inquiet, dit le majordome, j'ai entendu dire à Monsieur de Bussy et à son médecin, Monsieur Remy, que c'était le plus intelligent animal qui existât. Dès qu'il sentira ses compagnons, il les rejoindra. Voyez, les belles jambes, elles feraient envie à un cerf. »
Montsoreau se pencha de côté.
« Magnifique, dit-il. »
En effet, le cheval partit, sans attendre qu'on l'excitât, et sortit fort délibérément de la ville. Il fit même un détour avant d'arriver à la porte pour abréger la route, qui se bifurquait circulairement à gauche, directement à droite. Tout en donnant cette preuve d'intelligence, le cheval secouait la tête comme pour échapper au frein qu'il sentait peser sur ses lèvres. Il semblait dire au cavalier que toute influence dominatrice lui était inutile, et à mesure qu'il approchait de la porte de la ville, il accélérait sa marche.
« En vérité, murmura Montsoreau, je vois qu'on ne m'en avait pas trop dit.
Ainsi, puisque tu sais si bien ton chemin, va, Roland, va !»
Et il abandonna les rênes sur le cou de Roland.
Le cheval, arrivé au boulevard extérieur, hésita un moment pour savoir s'il tournerait à droite ou à gauche. Il tourna à gauche. Un paysan passait en ce moment.
« Avez-vous vu une troupe de cavaliers, l'ami ?» demanda Montsoreau.
« Oui, monsieur, répondit le rustique, je l'ai rencontré, là-bas, en avant. »
C'était justement dans la direction qu'avait prise Roland que le paysan venait de rencontrer cette troupe.
« Va, Roland, va !» dit le grand veneur, en lâchant les rênes à son cheval, qui prit un trot allongé avec lequel on devait naturellement faire 3 ou 4 lieues à l'heure. Le cheval suivit encore quelque temps le boulevard, puis il donna tout à coup à droite, prenant un sentier fleuri, qui courait à travers la campagne. Montsoreau hésita un instant pour savoir s'il n'arrêterait pas Roland, mais Roland paraissait si sûr de son affaire qu'il le laissa aller. À mesure que le cheval s'avançait, il s'animait. Il passa du trot au galop, et en moins d'un quart d'heure, la ville eut disparu au regard du cavalier. De son côté aussi, le cavalier, à mesure qu'il s'avançait, semblait reconnaître les localités.
« Hé, mais, dit-il, en entrant sous le bois, on dirait que nous allons vers Méridor. Est-ce que son Altesse, par hasard, se serait dirigée du côté du château ?»
Et le front du grand veneur se rembrunit à cette idée qui ne se présentait pas à son esprit pour la première fois.
« Oh » murmurait-il, « moi qui venais d'abord voir le prince, remettant à demain de voir ma femme, aurais-je donc le bonheur de les voir tous les deux en même temps ?» Un sourire terrible passa sur les lèvres du grand veneur. Le cheval allait toujours, continuant d'appuyer à droite avec une ténacité qui indiquait la marche la plus résolue et la plus sûre.
« Mais sur mon âme, pensa Montsoreau, je ne dois plus maintenant être bien loin du parc de Méridor. »
En ce moment, le cheval se mit à hennir. Au même instant, un autre hennissement lui répondit du fond de la feuillée.
« Ah, dit le grand veneur, voilà Roland qui a trouvé ses compagnons, à ce qu'il paraît.
Le cheval redoublait de vitesse, passant comme l'éclair sous les hautes futaies. Soudain, Montsoreau aperçut un mur et un cheval attaché près du mur. Le cheval hennit une seconde fois et Montsoreau reconnut que c'était lui qui aurait dû hennir la première fois. « Il y a quelqu'un ici, » dit Montsoreau pâlissant. Monsieur de Montsoreau marchait de surprise en surprise. Le mur de Méridor, rencontré comme par enchantement, ce cheval caressant le cheval qui l'avait amené, comme s'il eût été sa plus intime connaissance, il y avait certes là de quoi faire réfléchir le moins soupçonneux. En s'approchant, et l'on devine si monsieur de Montsoreau s'approcha vivement, en s'approchant, il remarqua la dégradation du mur à cet endroit. C'était une véritable échelle qui menaçait de devenir une brèche. Les pieds semblaient s'être creusés des échelons dans la pierre et les ronces arrachées fraîchement pendaient à leurs branches meurtries. Le comte embrassa tout l'ensemble d'un seul coup, puis de l'ensemble il passa aux détails. Le cheval méritait le premier rang. Il l'obtint. L'indiscret animal portait une selle garnie d'une housse brodée d'argent. Dans un des coins était un double F entrelaçant un double A. C'était, à n'en pas douter, un cheval des écuries du prince, puisque le chiffre faisait François d'Anjou. Les soupçons du comte à cette vue devinrent de véritables alarmes. Le duc était donc venu de ce côté. Il y venait donc souvent, puisque, outre le cheval attaché, il y en avait un second qui savait le chemin. Montsoreau conclut, puisque le hasard l'avait mis sur cette piste, qu'il fallait suivre cette piste jusqu'au bout. C'était d'abord dans ses habitudes de grand veneur et de mari jaloux. Mais tant qu'il resterait de ce côté du mur, il était évident qu'il ne verrait rien. En conséquence, il attacha son cheval près du cheval voisin et commença bravement l'escalade. C'était chose facile, un pied appelait l'autre. La main avait ses places toutes faites pour se poser, la courbe du bras était dessinée sur les pierres à la surface de la crête du mur, et on avait soigneusement élagué avec un couteau de chasse un chêne dont à cet endroit les rameaux embarrassaient la vue et empêchaient le geste. Tant d'efforts furent couronnés d'un entier succès. Monsieur de Montsoreau ne fut pas plus tôt établi à son observatoire qu'il aperçut au pied d'un arbre une mantille de couleur bleue et un manteau de velours noir. La mantille appartenait sans conteste à une femme et le manteau noir à un homme. D'ailleurs, il n'y avait point à chercher bien loin. L'homme et la femme se promenaient à 50 pas de là, les bras enlacés, tournant le dos au mur et cachés d'ailleurs par le feuillage du buisson. Malheureusement pour monsieur de Montsoreau, qui n'avait pas habitué le mur à ses violences, un moellon se détacha du chaperon et tomba, brisant les branches jusque dans l'herbe. Là, il retentit avec un écho mugissant. À ce bruit, il paraît que les personnages dont le buisson cachait les traits à monsieur de Montsoreau se retournèrent et l'aperçurent, car un cri de femme aigu et significatif se fit entendre, et puis un frôlement dans le feuillage avertit le comte qu'il se sauvait comme deux chevreuils effrayés. Au cri de la femme, Montsoreau avait senti la sueur de l'angoisse lui monter au front. Il avait reconnu la voix de Diane. Incapable dès lors de résister au mouvement de fureur qui l'emportait, il s'élança du haut du mur et, son épée à la main, se mit à fendre buissons et rameaux pour suivre les fugitifs. Mais tout avait disparu. Rien ne troublait plus le silence du parc, pas une ombre au fond des allées, pas une trace dans les chemins, pas un bruit dans les massifs, si ce n'est le chant des rossignols et des fauvettes, qui, habitués à voir les deux amants, n'avaient pu être effrayés par eux. Que faire en présence de la solitude? Que résoudre? Où courir? Le parc était grand. On pouvait, en poursuivant ceux qu'on cherchait, rencontrer ceux que l'on ne cherchait pas. Monsieur de Montsoreau songea que la découverte qu'il avait faite suffisait pour le moment. D'ailleurs, il se sentait lui-même sous l'empire d'un sentiment trop violent pour agir avec la prudence qu'il convenait de déployer vis-à-vis d'un rival aussi redoutable que l'était François, car il ne doutait pas que ce rival ne fût le prince. Puis, si par hasard ce n'était pas lui, il avait près du duc d'Anjou une mission pressée à accomplir. D'ailleurs, il verrait bien, en se retrouvant auprès du prince, ce qu'il devait penser de sa culpabilité ou de son innocence. Puis, une idée sublime lui vint. C'était de franchir le mur à l'endroit même où il l'avait déjà escaladé et d'enlever avec le sien le cheval de l'intrus, surpris par lui dans le parc. Ce projet vengeur lui donna des forces. Il reprit sa course et arriva au pied du mur, haletant et couvert de sueur. Alors, cédant de chaque branche, il parvint au faîte et retomba de l'autre côté. Mais de l'autre côté, plus de cheval, ou pour mieux dire, plus de chevaux. L'idée qu'il avait eue était si bonne qu'avant de lui venir à lui, elle était venue à son ennemi et que son ennemi en avait profité. Monsieur de Montsoreau, accablé, laissa échapper un rugissement de rage, montrant le poing à ce démon malicieux qui, bien certainement, riait de lui dans l'ombre déjà épaisse du bois. Mais comme chez lui la volonté n'était pas facilement vaincue, il réagit contre les fatalités successives qui semblaient prendre à tâche de l'accabler, en s'orientant à l'instant même, malgré la nuit qui descendait rapidement, il réunit toutes ses forces et regagna Angers par un chemin de traverse qu'il connaissait depuis son enfance. 2 heures et demie après, il arrivait à la porte de la ville, mourant de soif, de chaleur et de fatigue, mais l'exaltation de la pensée avait donné des forces au corps, et c'était toujours le même homme volontaire et violent à la fois. D'ailleurs, une idée le soutenait, il interrogeait la sentinelle, ou plutôt les sentinelles. Il irait de porte en porte. Il saurait par quelle porte un homme était entré avec les 2 chevaux, il viderait sa bourse, il ferait des promesses d'or et il connaîtrait le signalement de cet homme. Alors, quel qu'il fût, prochainement ou plus tard, cet homme lui paierait sa dette. Il interrogea la sentinelle, mais la sentinelle venait d'être placée et ne savait rien. Il entra au corps de garde et s'informa. Le milicien qui descendait de garde avait vu, il y avait 2 heures à peu près, rentrer un cheval sans maître qui avait repris tout seul le chemin du palais. Il avait alors pensé qu'il était arrivé quelque accident au cavalier et que le cheval intelligent avait regagné le logis. Montsoreau se frappa le front. Il était décidé qu'il ne saurait rien. Alors il s'achemina à son tour vers le château du Cal. Là, grande vie, grand bruit, grande joie. Les fenêtres resplendissaient comme des soleils et les cuisines reluisaient comme des fours embrasés, envoyant par leurs soupiraux des parfums de venaison et de girofle capables de faire oublier à l'estomac qu'il est voisin du cœur. Mais les grilles étaient fermées et là, une difficulté se présenta, il fallait se les faire ouvrir. Montsoreau appela le concierge et se nomma, mais le concierge ne voulut point le reconnaître. « Vous étiez droit et vous êtes voûté, lui dit-il. « Cela fatigue. Vous étiez pâle et vous êtes rouge. C'est la chaleur. Vous étiez à cheval et vous rentrez sans cheval. C'est que mon cheval a eu peur, a fait un écart, m'a désarçonné et est rentré sans cavalier. N'avez-vous pas vu mon cheval ?»« Ah, si fait, dit le concierge. En ce cas, allez prévenir le majordome. » Le concierge, enchanté de cette ouverture qui le dégageait de toute responsabilité, envoya prévenir ledit majordome. Celui-ci arriva et reconnut parfaitement Montsoreau. « Eh, d'où venez-vous, mon Dieu, dans un pareil état ?» lui demanda-t-il. Montsoreau lui répéta la même fable qu'il avait déjà faite au concierge. « En effet, dit le majordome, nous avons été fort inquiets quand nous avons vu le cheval sans cavalier, monseigneur surtout, que j'avais eu l'honneur de prévenir de votre arrivée. Hein, »« Monseigneur a paru inquiet, fit Montsoreau. Fort inquiet. Et qu'a-t-il dit ? Qu'on vous introduisît près de lui aussitôt votre arrivée. Bien, le temps de passer à l'écurie, seulement voir s'il n'y a rien arrivé au cheval de son Altesse. » Montsoreau passa à l'écurie et reconnut à la place où il l'avait pris l'intelligent animal qui mangeait en cheval qui sent le besoin de réparer ses forces. Puis, sans même prendre le soin de changer de costume, Montsoreau pensait que l'importance de la nouvelle qu'il apportait devait l'emporter sur l'étiquette. Sans même changer, disons-nous, le grand veneur se dirigea vers la salle à manger. tous les gentilshommes du prince et son Altesse même, réunis autour d'une table magnifiquement servie et splendidement éclairée, attaquaient les pâtés de faisan, les grillades fraîches de sanglier et les entremets épicés qu'ils arrosaient de ce vin noir de Cahors si généreux et si velouté, ou de ce perfide, suave et pétillant vin d'Anjou, dont les fumées s'extravasent dans la tête avant que les topazes qu'ils distillent dans le verre soient tout à fait épuisées. « La cour est au grand complet, » disait Entraguet, rose comme une jeune fille et déjà ivre comme un vieux reître. « Au complet, comme la cave de votre Altesse. Ah, »« Non pas, non pas, » dit Ribérac, « il nous manque un grand veneur. » Il est en vérité honteux que nous mangions le dîner de son Altesse et que nous ne le prenions pas nous-mêmes. « Moi, je vote pour un grand veneur quelconque, » dit Livarot, « peu importe lequel, fût-ce monsieur de Montsoreau. » Le duc sourit, il savait seul l'arrivée du comte. Livarot achevait à peine sa phrase et le prince son sourire que la porte s'ouvrit et que monsieur de Montsoreau entra. Le duc fit, en l'apercevant, une exclamation d'autant plus bruyante qu'elle retentit au milieu du silence général. « Eh bien, le voici, dit-il. Vous voyez que nous sommes favorisés du ciel, messieurs, puisque le ciel nous envoie à l'instant ce que nous désirons. » Montsoreau, assez embarrassé de cet aplomb du prince, et qui, dans les cas pareils, n'était pas habituel à son Altesse, salua d'un air contraint et détourna la tête, ébloui comme un hibou tout à coup transporté de l'obscurité au grand soleil. « Asseyez-vous là et soupez, » dit le duc en montrant à monsieur de Montsoreau une place en face de lui. « Ah, monseigneur, » répondit Montsoreau, « j'ai bien soif, j'ai bien faim, je suis bien là, mais je ne boirai, je ne mangerai, je ne m'assoirai qu'après m'être acquitté près de votre Altesse d'un message de la plus haute importance. Vous venez de Paris, n'est-ce pas? En toute hâte, monseigneur. Eh bien, j'écoute, » dit le duc. Montsoreau s'approcha de François, et le sourire sur les lèvres, la haine dans le cœur, il lui dit tout bas, « Monseigneur, madame la reine mère avance à grande journée, elle vient voir votre Altesse. » Le duc, sur qui chacun avait les yeux fixés, laissa percer une joie soudaine. « Ah, c'est bien, dit-il, merci, monsieur de Montsoreau. Aujourd'hui, comme toujours, je vous trouve fidèle serviteur. Continuons de souper, messieurs. » Et il rapprocha de la table son fauteuil qu'il avait éloigné un instant pour écouter monsieur de Montsoreau. Le festin recommença. Le grand veneur, placé entre Livarot et Ribérac, n'eut pas plutôt goûté les douceurs d'un bon siège et ne se fut pas plutôt trouvé en face d'un repas copieux qu'il perdit tout à coup l'appétit. L'esprit reprenait le dessus sur la matière. L'esprit, entraîné dans de tristes pensées, retournait au parc de Méridor et, faisant de nouveau le voyage que ce corps brisé venait d'accomplir, repassait comme un pèlerin attentif par ce chemin fleuri qu'il avait conduit à la muraille. Il revoyait le cheval hennissant, il revoyait le mur dégradé, il revoyait les deux ombres amoureuses et fuyantes, il entendait le cri de Diane, ce cri qui avait retenti au plus profond de son cœur. Alors indifférente au bruit, à la lumière, au repas même, oubliant à côté de qui et en face de qui il se trouvait, il s'ensevelissait dans sa propre pensée, laissant son front se couvrir peu à peu de nuages et chassant de sa poitrine un sourd gémissement qui attirait l'attention des convives étonnés. « Vous tombez de lassitude, monsieur le grand veneur, » dit le prince. « En vérité, vous feriez bien d'aller vous coucher. » « Ma foi oui, » dit Livarot, « le conseil est bon, et si vous ne le suivez pas, vous courez grand risque de vous endormir dans votre assiette. »« Pardon, monseigneur, » dit Montsoreau en relevant la tête, « en effet, je suis écrasé de fatigue. »« Enivrez-vous, comte, » dit Entraguet, « rien ne délasse comme cela. » »« Et puis, » murmura Montsoreau, « en s'enivrant, on oublie. » « Oh, bah, » dit Livarot, « il n'y a pas moyen. Voyez, messieurs, son verre est encore plein. » « À votre santé, comte, » dit Ribérac en levant son verre. Montsoreau fut forcé de faire raison au gentilhomme et vida le sien d'un seul trait. « Oh, il boit cependant très bien, voyez, monseigneur, » dit Entraguet. « Oui, » répondit le prince, qui essayait de lire dans le cœur du comte. « Oui, à merveille. Il faudra cependant que vous nous fassiez faire une belle chasse, comte, » dit Ribérac. « Vous connaissez le pays. » « Vous y avez des équipages, des bois, » dit Livarot.
Et même une femme, ajouta Entraguet. Oui, répéta machinalement le conduit, des équipages, des bois, et madame de Montsoreau, oui, monsieur, oui. Oh, faites-nous chasser un sanglier, comte, dit le prince. Je tâcherai, monseigneur. Par Dieu, dit un des gentilshommes angevins, vous tâcherez, voilà une belle réponse. Le bois en foisonne de sangliers. Si je chassais au vieux taillis, je voudrais, au bout de 5 minutes, en avoir fait lever 10. Montsoreau pâlit malgré lui. Le vieux taillis était justement cette partie du bois où Roland venait de le conduire. Ah oui, oui, demain, demain, s'écrièrent en cœur les gentilshommes. Voulez-vous demain, Montsoreau ? Demanda le duc. Je suis toujours aux ordres de votre Altesse, répondit Montsoreau. Mais cependant, comme monseigneur daignait le remarquer il n'y a qu'un instant, je suis bien fatigué pour conduire une chasse demain. Et puis j'ai besoin de visiter les environs et de savoir où en sont nos bois. Et puis enfin, laissez-lui voir sa femme, que diable ! Dit le duc, avec une bonhomie qui convaincut le pauvre mari que le duc était son rival. « Accordez, accordez !» crièrent les jeunes gens avec gaieté. « Nous donnons 24 heures à monsieur de Montsoreau pour faire dans ces bois tout ce qu'il y a à y faire. »« Oui, messieurs, donnez-les-moi, » dit le comte, « je vous promets de les bien employer. »« Maintenant, notre grand veneur, » dit le duc, « je vous permets d'aller trouver votre lit, que l'on conduise monsieur de Montsoreau à son appartement. » Monsieur de Montsoreau salua et sortit, soulagé d'un grand fardeau, la contrainte. Les gens affligés aiment la solitude plus encore que les amants heureux. Une fois le grand veneur sorti de la salle à manger, le repas continua plus gai, plus joyeux, plus libre que jamais. La figure sombre de Montsoreau n'avait pas peu contribué à maintenir les jeunes gentilshommes, car sous le prétexte et même sous la réalité de la fatigue, ils avaient démêlé cette continuelle préoccupation des sujets lugubres qui imprimaient au front du comte cette tache de tristesse mortelle qui faisait le caractère particulier de sa physionomie. Lorsqu'il fut parti et que le prince, toujours gêné en sa présence, eut repris son air tranquille, « Voyons, Livaro, dit le duc, tu avais, lorsqu'est entré notre grand veneur, commencé de nous raconter votre fuite de Paris. Continue !» Et Livaro continua. Mais comme notre titre d'historien nous donne le privilège de savoir mieux que Livaro lui-même ce qui s'était passé, nous substituerons notre récit à celui du jeune homme. Peut-être y perdra-t-il comme couleur, mais il y gagnera comme étendue, puisque nous savons ce que Livaro ne pouvait savoir, c'est-à-dire ce qui s'était passé au Louvre. Vers le milieu de la nuit, Henri III fut réveillé par un bruit inaccoutumé qui retentissait dans le palais, où cependant le roi, une fois couché, le silence le plus profond était prescrit. C'était des jurons, des coups de hallebarde contre les murailles, des courses rapides dans les galeries, des imprécations à faire rouvrir la terre, et au milieu de tous ces bruits, de tous ces chocs, de tous ces blasphèmes, ces mots répétés par des milliers d'échos, « Que dira le roi ? Que dira le roi ?» Henri se dressa sur son lit et regarda Chicot, qui, après avoir soupé avec sa majesté, s'était laissé aller au sommeil dans un grand fauteuil, les jambes enlacées dans sa rapière. Les rumeurs redoublaient. Henri sauta en bas de son lit, tout luisant de pommade, en criant « Chicot, Chicot !» Chicot ouvrit un œil. C'était un garçon prudent qui appréciait fort le sommeil et qui ne se réveillait jamais tout à fait du premier coup. « Ah, tu as eu tort de m'appeler, Henri, dit-il. Je rêvais que tu avais un fils. »«
Écoute, dit Henri, écoute.
Que veux-tu que j'écoute? Il me semble cependant que tu me dis bien assez de sottises comme cela pendant le jour, sans prendre encore sur mes nuits. »«
Mais tu n'entends donc pas, dit le roi, en étendant la main dans la direction du bruit. »«
Oh, s'écria Chicot, en effet, j'entends des bruits. »«
Que dira le roi, que dira le roi, répète Henri, entends-tu ?
« Il y a deux choses à soupçonner, ou ton lévrier Narcisse est malade, ou les Huguenots prennent leur revanche et font une Saint-Barthélemy de catholique.
Aide-moi à m'habiller, Chicot.
Je le veux bien, mais aide-moi à me lever, Henri. »«
Quel malheur » répétait-on dans les antichambres.
« Diable, ceci devient sérieux, » dit Chicot.
« Ah, nous ferons bien de nous armer, » dit le roi. Nous ferons mieux encore, dit Chicot, de nous dépêcher de sortir par la petite porte, afin de voir et de juger par nous-mêmes le malheur, au lieu de nous le laisser raconter. Presque aussitôt, suivant le conseil de Chicot, Henri sortit par la porte dérobée et se trouva dans le corridor qui conduisait aux appartements du duc d'Anjou. C'est là qu'il vit des bras au ciel et qu'il entendit les exclamations les plus désespérées. « Oh, dit Chicot, je devine, ton malheureux prisonnier se sera étranglé dans sa prison. Ventre de biche, Henri, je te fais mon compliment. Tu es un plus grand politique que je ne croyais. »« Eh non, malheureux, s'écria Henri, cela ne peut être cela. » « Tant pis, dit Chicot. Viens, viens !» Et Henri entraîna le Gascon dans la chambre du duc. La fenêtre était ouverte et garnie d'une foule de curieux entassés les uns sur les autres pour contempler l'échelle de corde accrochée au trèfle de fer du balcon. Henri devint pâle comme la mort. « Hé, hé, mon fils, dit Chicot, tu n'es pas encore si fort blasé que je le croyais !» « Enfui, évadé !» s'écria Henri, d'une voix si retentissante que tous les gentilshommes se retournèrent. Il y avait des éclairs dans les yeux du roi. Sa main serrait convulsivement la poignée de sa miséricorde. Schomberg s'arrachait les cheveux, Kélus se bourrait le visage de coups de poing et Maugiron frappait comme un bélier de la tête dans la cloison. Quant à d'Épernon, il avait disparu sous le spécieux prétexte de courir après monsieur le duc d'Anjou. La vue du martyr que dans leur désespoir s'infligeaient les favoris calma tout à coup le roi. « Hé là, doucement, mon fils, dit-il, en retenant Maugiron par le milieu du corps. « Non, mordieu, j'en crèverai, ou le diable m'emporte, dit le jeune homme, en prenant du champ pour se briser la tête, non plus sur la cloison, mais sur le mur. « Oh là, aidez-moi donc à le retenir !» cria Henri. « Hé, compère, dit Chicot, il y a une mort plus douce. Passez-vous tout bonnement votre épée au travers du ventre. « Veux-tu te taire, bourreau ?» dit Henri, les larmes aux yeux. Pendant ce temps, Kélus se meurtrissait les joues. « Oh, Kélus, mon enfant !» dit Henri, « tu vas ressembler à Schomberg quand il était trempé dans du bleu de Prusse. Tu seras affreux, mon ami !» Kélus s'arrêta. Schomberg seul continuait de se dépouiller les tempes. Il en pleurait de rage. « Ah, Schomberg, Schomberg, mon mignon !» cria Henri. « Un peu de raison, je t'en prie !»« Oh, je deviendrai fou !»« Bah !» dit Chicot. « Ah, le fait est, dit Henri, que c'est un affreux malheur, et voilà pourquoi il faut que tu gardes ta raison, Schomberg. Oui, c'est un affreux malheur, je suis perdu, voilà une guerre civile dans mon royaume. Ah, qui a fait ce coup-là? Qui a fourni l'échelle? Ah, par la mordieu, je ferai pendre toute la ville !» Une profonde terreur s'empara des assistants. « Qui est le coupable ?» continua Henri. « Où est le coupable ? 10 000 écus à qui me dira son nom, 100 000 écus à qui me le livrera, mort ou vif !»« Que voulez-vous que ce soit ?» s'écria Maugiron, « sinon quelque angevin !»« Pardieu, tu as raison !» s'écria Henri. « Ah, les angevins, mordieu, les angevins, ils me le paieront !» Et comme si cette parole eût été une étincelle, communiquant le feu à une traînée de poudre, une effroyable explosion de cris et de menaces retentit contre les Angevins. « Ah oui, les Angevins !» cria Kélus. « Où sont-ils ? » hurla Schomberg. « Qu'on les éventre !» vociféra Maugiron. « 100 potences pour 100 Angevins !» reprit le roi. Chicot ne pouvait rester muet dans cette fureur universelle. Il tira son épée avec un geste de taille-bras, et s'escrimant du plat à droite et à gauche, il rossa les mignons et battit les murs en répétant avec des yeux farouches « Oh, ventre de biche ! Oh, malheurage ! Oh, damnation ! Les Angevins ! Mordieu ! Mort aux Angevins !» Ce cri « Mort aux Angevins » fut entendu de toute la ville, comme le cri des mères israélites fut entendu de tout Rama. Cependant, Henri avait disparu. Il avait songé à sa mère et, se glissant hors de la chambre sans mot dire, il était allé trouver Catherine, un peu négligée depuis quelque temps, et qui, renfermée dans son apparence affectée, attendait, avec sa pénétration florentine, une bonne occasion de voir surnager sa politique. Lorsque Henri entra, elle était à demi couchée, pensive, dans un grand fauteuil, et elle ressemblait plus, avec ses joues grasses mais un peu jaunâtres, avec ses yeux brillants mais fixes, avec ses mains potelées mais pâles, à une statue de cire exprimant la méditation qu'a un être animé qui pense. Mais à la nouvelle de l'évasion de François, nouvelle que Henri donna au reste sans ménagement aucun, tout embrasé qu'il était de colère et de haine, la statue parut se réveiller tout à coup, quoique le geste qui annonçait ce réveil se borna, pour elle, à s'enfoncer davantage encore dans son fauteuil et à secouer la tête sans rien dire. « Eh bien, ma mère, dit Henri, vous ne vous écriez pas ?»«
Et pourquoi faire, mon fils ?» demanda Catherine.
« Comment, cette évasion de votre fils ne vous paraît pas criminelle, menaçante, digne des plus grands châtiments ?»«
Mon cher fils, la liberté vaut bien une couronne, et rappelez-vous que je vous ai à vous-même conseillé de fuir quand vous pouviez atteindre cette couronne. »«
Ma mère, on m'outrage !»
Catherine haussa les épaules.
« Ma mère, on me brave !»«
Mais non, dit Catherine, on se sauve, voilà tout !»
« Ah, dit Henri, voilà comme vous prenez mon parti.
Que voulez-vous dire, mon fils ?
Je dis qu'avec l'âge, les sentiments s'émoussent. Je dis... »
Il s'arrêta. « Que dites-vous ? » reprit Catherine avec son calme habituel.
« Je dis que vous ne m'aimez plus comme autrefois. »
« Vous vous trompez, dit Catherine, avec une froideur croissante. Vous êtes mon fils bien-aimé, Henri. » « Mais celui dont vous vous plaignez est aussi mon fils. »«
Ah, trêve à la morale maternelle, madame, dit Henri furieux. Nous connaissons ce que cela vaut. »«
Eh, vous devez le connaître mieux que personne, mon fils, car vis-à-vis de vous, ma morale a toujours été de la faiblesse. »«
Et comme vous êtes au repentir, vous vous repentez. »
Je sentais bien que nous en viendrions là, mon fils, dit Catherine. Voilà pourquoi je gardais le silence.
Adieu, madame, adieu, dit Henri. Je sais ce qui me reste à faire, puisque chez ma mère même, il n'y a plus de compassion pour moi. Je trouverai des conseillers capables de seconder mon ressentiment et de m'éclairer dans cette rencontre.
Allez, mon fils, dit tranquillement la Florentine. Que l'Esprit de Dieu soit avec ses conseillers, car ils en auront bien besoin pour vous tirer d'embarras. »
Et elle le laissa s'éloigner sans faire un geste, sans dire un mot pour le retenir.
« Adieu, madame, » répéta Henri.
Mais près de la porte, il s'arrêta.
« Henri, adieu, » dit la reine, « seulement encore un mot. Je ne prétends pas à vous donner un conseil, mon fils. Vous n'avez pas besoin de moi, je le sais, mais priez vos conseillers de bien réfléchir avant d'émettre leurs avis, et de mieux réfléchir encore avant de mettre leur avis à exécution. »
« Oh oui, » dit Henri, se rattachant à ce mot de sa mère et en profitant pour ne pas aller plus loin, car la circonstance est difficile, n'est-ce pas, madame ?»
« Grave, » dit lentement Catherine, en levant les yeux et les mains au ciel. « Bien grave, Henri. »
Le roi, frappé de cette expression de terreur qu'il croyait lire dans les yeux de sa mère, revint près d'elle.
« Quels sont ceux qui l'ont enlevé ? En avez-vous une idée, ma mère ?»
Catherine ne répondit point.
« Ah, moi, dit Henri, je pense que ce sont les angevins. »
Catherine sourit avec cette finesse qui montrait toujours en elle un esprit supérieur, veillant pour terrasser et confondre l'esprit d'autrui.
« Les angevins, » répéta-t-elle.
« Vous ne le croyez pas, dit Henri, cependant tout le monde le croit. »
Catherine fit encore un mouvement d'épaule.
« Que les autres croient cela, bien, dit-elle, mais vous, mon fils, enfin. »
« Mais quoi donc, madame, que voulez-vous dire? Expliquez-vous, je vous en supplie. »
« À quoi bon m'expliquer ? » ?»«
Votre explication m'éclairera. »«
Vous éclairera. Allons donc, Henri. Je ne suis qu'une vieille femme et radoteuse. Ma seule influence est dans mon repentir et dans mes prières. »«
Non, parlez, parlez, mère. Je vous écoute. Oh, vous êtes encore, vous serez toujours notre âme à tous. Parlez. »
« Inutile, je n'ai que les idées de l'autre siècle, et la défiance fait tout l'esprit des vieillards. La vieille Catherine a donné à son âge un conseil qui vaille encore quelque chose. Allons donc, mon fils, impossible. »«
Eh bien, soit, ma mère, dit Henri, refusez-moi votre secours, privez-moi de votre aide. Mais dans une heure, voyez-vous, que ce soit votre avis ou non, et je le saurai alors, j'aurai fait pendre tous les angevins qui sont à Paris. »
Faire peindre tous les angevins! S'écria Catherine, avec cet étonnement qui éprouve les esprits supérieurs lorsqu'on dit devant eux quelque énormité.
Oui, oui, pendre, massacrer, assassiner, brûler. À l'heure qu'il est, mes amis courent déjà la ville pour rompre les os à ces maudits, à ces brigands, à ces rebelles.
Qu'ils s'en gardent, malheureux! S'écria Catherine, emportée par le sérieux de la situation.
Ils se perdraient eux-mêmes, et ce qui ne serait rien, ils vous perdraient avec eux.
Comment cela?
Aveugle, murmura Catherine, les rois auront donc éternellement des yeux pour ne pas voir. Et elle joignit les mains.
Les rois ne sont rois qu'à la condition qu'ils vengent les injures qu'on leur fait, car alors leur vengeance c'est une justice, et dans ce cas surtout, tout mon royaume se lèvera pour me défendre.
Fou, insensé, enfant, murmura la Florentine.
Mais pourquoi cela? Comment cela?
Pensez-vous qu'on égorgera, qu'on brûlera, qu'on pendra des hommes comme Bussy, comme Montraguet, comme Livaro, comme Ribérac, sans faire couler des flots de sang?
Qu'importe, pourvu qu'on les égorge.
Oui, sans doute, si on les égorge. Montrez-les-moi à mort, et par Notre-Dame, je vous dirai que vous avez bien fait, mais on ne les égorgera pas. Mais on aura levé pour eux l'étendard de la révolte, mais on leur aura mis nu à la main l'épée qu'ils n'eussent jamais osé tirer du fourreau pour un maître comme François. Tandis qu'au contraire, dans ce cas-là, par votre imprudence, ils dégaineront pour défendre leur vie, et votre royaume se soulèvera, non pas pour vous, mais contre vous.
« Mais si je ne me venge pas, j'ai peur, je recule !» s'écria Henri.
« A-t-on jamais dit que j'avais peur ?» dit Catherine en fronçant le sourcil et en pressant ses dents de ses lèvres minces et rougies avec du carmin.
« Cependant, si c'était les Angevins, ils mériteraient une punition, ma mère !»«
Oui, si c'était eux, mais ce ne sont pas eux. »«
Mais qui est-ce donc, si ce ne sont pas les amis de mon frère ?»
« Ce ne sont pas les amis de votre frère, parce que votre frère n'a pas d'amis. »«
Mais qui est-ce donc ?»«
Ce sont vos ennemis à vous, ou plutôt votre ennemi. »«
Mais quel ennemi ?»«
Eh, mon fils, vous savez bien que vous n'en avez jamais eu qu'un, comme votre frère Charles n'en a jamais eu qu'un. » Comme moi, je n'en ai jamais eu qu'un, le même, toujours, incessamment. »
Henri de Navarre, vous voulez dire?
Eh oui, Henri de Navarre.
Il n'est pas à Paris.
Eh, savez-vous qui est à Paris ou qui n'y est pas? Savez-vous quelque chose? Avez-vous des yeux et des oreilles? Avez-vous autour de vous des gens qui voient et qui entendent? Non, vous êtes tous sourds, vous êtes tous aveugles.
Henri de Navarre, répéta Henri.
Mon fils, à chaque désappointement qui vous arrivera, à chaque malheur qui vous arrivera, à chaque catastrophe qui vous arrivera et dont l'auteur vous restera inconnu, ne cherchez pas, n'hésitez pas, ne vous enquérez pas, c'est inutile. Écriez-vous Henri, c'est Henri de Navarre, et vous serez sûr d'avoir frappé juste. Cet homme, et voyez-vous, c'est l'épée que Dieu a suspendue au-dessus de la maison des Valois.
Vous êtes donc d'avis que je donne contre-ordre à l'endroit des Angevins?
À l'instant même, s'écria Catherine, sans perdre une seconde, hâtez-vous, peut-être est-il déjà trop tard, courez, révoquez ces ordres, allez où vous êtes perdus.
Et saisissant son fils par le bras, elle le poussa vers la porte avec une force et une énergie incroyables. Henri s'élança hors du Louvre, cherchant à rallier ses amis. Mais il ne trouva que Chicot, assis sur une pierre et dessinant des figures géographiques sur le sable.